Compréhension de l'oral, niveau avancé. Sujet numéro 1. Vous allez écouter 3 documents sonores. Vous avez une minute pour lire les propositions. Document numéro 1.
Modifier les comportements vis-à-vis de l'automobile, c'est l'objectif prioritaire de la journée sans voiture. C'est aujourd'hui même dans la capitale.
650 km de chaussées seront fermées aux véhicules à moteur, soit une zone de 38 km² qui s'étendra de Montmartre à l'Arc de Triomphe jusqu'à la gare Montparnasse au sud. Toutes les précisions sur cette opération avec vous, Virginie Garin.
Alors, la totalité ou presque des 11 premiers arrondissements sera fermée à tous les véhicules à moteur, voitures, motos, scooters, camions, y compris les électriques. Les autolibes, donc, ne circuleront pas. Dans les autres arrondissements, il y aura aussi des rues fermées, mais pas toutes. Et là où les voitures pourront quand même rouler, la vitesse sera limitée à 20 km/h, donc dans toute la capitale, à l'exception du périphérique. Le mieux est de consulter la carte sur internet paris.fr journée sans voiture, car au total, près de la moitié de la capitale sera réservé aux piétons, aux vélos, aux trottinettes et aux rollers. Alors il y aura des dérogations quand même pour les secours, pour les livraisons, les taxis, les riverains et les bus. Les bus qui auront le droit de circuler mais à 20 km/h pas plus. Et tous les transports en commun fonctionneront évidemment toute la journée, mais ils ne seront pas gratuits.
Document numéro 2.
Comment rendre la route plus écolo? En France, plusieurs projets sont encore en phase de test, mais ça pourrait tout de même révolutionner notre manière de circuler.
Et si demain, votre autoroute devenait verte, au sens figuré comme au sens propre et propre, là encore dans les deux sens du terme? Et si demain vous circuliez par exemple sur une algoroute, une route non pas faite de bitume, mais de micro-algues? C'est l'IFSTAR, l'Institut français des sciences et des technologies, qui développe ce projet en ce moment même. Pas besoin de pétrole pour fabriquer le bitume. Pour faire très simple, les micro-algues sont cuites en quelque sorte dans une grosse cocotte minute que l'IFSTAR a installée du côté de Nantes et qui fabrique cette texture assez semblable au goudron que nous connaissons. Sauf qu'elle sent l'algue et qu'elle présente un grand mérite, celui d'être recyclable.
Document numéro 3.
La voiture électrique est la vedette de ce mondial, avec un argument répété en permanence, elle serait non polluante. Et pourtant, Jean-Rémy, ce n'est pas si simple.
À ce salon de l'auto de Paris, toujours cette revendication écologique de la part des constructeurs, avec la voiture électrique encore et toujours présentée comme étant zéro pollution. Alors ça paraît évident, la voiture électrique n'a pas de pot d'échappement, elle n'est source d'aucun rejet à l'endroit où elle roule, et en ville, c'est un atout extrêmement important. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'amène aucune pollution, elle génère ce qu'on appelle de la pollution grise, c'est-à-dire de la pollution masquée, autre que celle, bien sûr, des fumées. D'abord, il y a la fabrication de la voiture elle-même. Quand vous incluez tout, la voiture électrique rejette, lors de sa fabrication, deux fois plus de gaz carbonique et de particules qu'une voiture classique. Ensuite, les matières premières des batteries. Aujourd'hui, on parle surtout du lithium, comme c'est le plus efficace, il est de plus en plus utilisé. L'extraction du lithium se fait principalement en Amérique latine, dans des mines extrêmement polluantes. Et l'extraction du lithium débute dans un parc naturel en Bolivie qui pourrait être complètement saccagé.
Document numéro 1. Deuxième écoute.
Modifier les comportements vis-à-vis de l'automobile, c'est l'objectif prioritaire de la journée sans voiture, c'est aujourd'hui même dans la capitale.
650 km de chaussées seront fermées aux véhicules à moteur, soit une zone de 38 km² qui s'étendra de Montmartre à l'Arc de Triomphe jusqu'à la gare Montparnasse au sud. Toutes les précisions sur cette opération avec vous Virginie Garin.
Alors, la totalité ou presque des 11 premiers arrondissements sera fermée à tous les véhicules à moteur, voitures, motos, scooters, camions, y compris les électriques. Les autolibes, donc, ne circuleront pas. Dans les autres arrondissements, il y aura aussi des rues fermées, mais pas toutes. Et là où les voitures pourront quand même rouler, la vitesse sera limitée à 20 km/h, donc dans toute la capitale, à l'exception du périphérique. Le mieux est de consulter la carte sur internet paris.fr journée sans voiture, car au total, près de la moitié de la capitale sera réservé aux piétons, aux vélos, aux trottinettes et aux rollers. Alors il y aura des dérogations quand même pour les secours, pour les livraisons, les taxis, les riverains et les bus. Les bus qui auront le droit de circuler mais à 20 km/h pas plus. Et tous les transports en commun fonctionneront évidemment toute la journée mais ils ne seront pas gratuits.
Document numéro 2. Deuxième écoute.
Comment rendre la route plus écolo ? En France, plusieurs projets sont encore en phase de test, mais ça pourrait tout de même révolutionner notre manière de circuler.
Et si demain, votre autoroute devenait verte, au sens figuré comme au sens propre et propre ? Là encore, dans les deux sens du terme. Et si demain vous circuliez, par exemple, sur une algoroute, une route non pas faite de bitume, mais de micro-algues. C'est l'IFSTAR, l'Institut français des sciences et des technologies, qui développe ce projet en ce moment même. Pas besoin de pétrole pour fabriquer le bitume. Pour faire très simple, les micro-algues sont cuites en quelque sorte dans une grosse cocotte minute, que l'IFSTAR a installée du côté de Nantes, et qui fabrique cette texture assez semblable au goudron que nous connaissons. Sauf qu'elle sent l'algue et qu'elle présente un grand mérite, celui d'être recyclable.
Document numéro 3. Deuxième écoute.
La voiture électrique est la vedette de ce mondial avec un argument répété en permanence. Elle serait non polluante. Et pourtant, Jean-Rémy, ce n'est pas si simple.
À ce salon de l'auto de Paris, toujours cette revendication écologique de la part des constructeurs avec la voiture électrique encore et toujours présentée comme étant zéro pollution. Alors ça paraît évident, la voiture électrique n'a pas de pot d'échappement, elle n'est source d'aucun rejet à l'endroit où elle roule et en ville, c'est un atout extrêmement important. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'amène aucune pollution, elle génère ce qu'on appelle de la pollution grise, c'est-à-dire de la pollution masquée, autre que celle, bien sûr, des fumées. D'abord, il y a la fabrication de la voiture elle-même. Quand vous incluez tout, la voiture électrique rejette, lors de sa fabrication, deux fois plus de gaz carbonique et de particules qu'une voiture classique. Ensuite, les matières premières des batteries. Aujourd'hui, on parle surtout du lithium, comme c'est le plus efficace, il est de plus en plus utilisé. L'extraction du lithium se fait principalement en Amérique latine, dans des mines extrêmement polluantes. Et l'extraction du lithium débute dans un parc naturel en Bolivie qui pourrait être complètement saccagé.
Sujet numéro 2. Vous avez 1 minute 30 secondes pour lire les consignes. Sujet numéro 2. Document sonore. Première écoute.
La France se prépare donc à affronter cette vague de froid qui arrive cette semaine. Le gouvernement a d'ailleurs mis en place un pilotage national quotidien. Bonsoir Gérald Roux.
Bonsoir Yacine, bonsoir à tous.
La lutte contre les grands froids, c'est comment ailleurs? C'est comment à Montréal où les températures sont très 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 négatives la majorité de l'hiver?
En janvier à Montréal au Canada, il fait en moyenne moins 10 degrés. Voilà. Mais la température peut descendre jusqu'à moins 35 par moment. 2 millions d'habitants vivent dans l'agglomération et pour s'adapter, il faut jouer sur plusieurs registres. Les déplacements, la vie souterraine et le chauffage.
Qu'est-ce que vous appelez la vie souterraine?
Alors, pour éviter de mettre le nez dehors, les habitants de Montréal se déplacent sous terre dans ce qu'on appelle le réseau piétonnier souterrain de Montréal. 33 km de tunnels pour aller d'un point à un autre sans sortir. Des immeubles de bureaux, des immeubles résidentiels, des centres commerciaux, des universités, des hôtels sont reliés par le réseau et à l'intérieur même de cette ville souterraine se trouvent des boutiques et des restaurants.
Et il date de quand, ce fameux réseau?
De 1962, c'est le plus grand complexe souterrain du monde. Il y a 160 points d'entrée différents, 7 stations de métro, 2 gares pour trains de banlieue, 500 000 personnes y passent chaque jour.
Et en surface alors, comment est-ce que ça se passe?
Alors déjà, il faut déneiger en surface, oui, jour et nuit, car il tombe en cumulé 2 mètres de neige par hiver à Montréal. Et quand la couche est fine, on va épandre du sel, des abrasifs. Quand la couche est épaisse, il faut des déneigeuses, près de 400 sur les routes et les trottoirs. La neige est ensuite chargée sur des camions pour l'évacuation. Il faut savoir que chaque hiver, le déneigement représente 300 000 voyages de camions.
Et pour les voitures, comment on fait?
Le carburant est adapté pour tenir le froid, le liquide du lave-vitre aussi, ça
c'est important.
Et oui, et puis il faut souvent un chauffe-moteur pour que les véhicules démarrent sans galère. C'est un appareil électrique en fait qui va chauffer le moteur 2 à 3 heures avant le démarrage matinal. Il est activé par une minuterie.
Et pour ce qui est des déplacements maritimes, aériens?
À Montréal, le fleuve Saint-Laurent est gelé de la fin décembre à la fin mars, donc ça fait 3 mois, et il y a des brises-glaces. Quant à l'aéroport Montréal-Trudeau, il est doté de 8 gros chasse-neige et de 5 souffleries qui dégagent 5000 tonnes de neige à l'heure.
Un gros équipement, j'imagine que c'est pareil pour l'électricité.
En période de grand froid, la demande est très forte, ça va pas vous étonner. Alors les habitants doivent faire preuve de civisme. Entre 6 et 9 heures du matin et entre 16 et 20 heures, il est demandé de réduire de 1 à 2 degrés le chauffage dans toutes les pièces, de reporter l'utilisation des appareils électroménagers et de limiter l'utilisation de l'eau chaude.
Sujet numéro 2, document sonore, deuxième écoute.
La France se prépare donc à affronter cette vague de froid qui arrive cette semaine. Le gouvernement a d'ailleurs mis en place un pilotage national quotidien. Bonsoir Gérald Roux.
Bonsoir Yacine, bonsoir à tous.
La lutte contre les grands froids, c'est comment ailleurs? C'est comment à Montréal où les températures sont très 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 négatives la majorité de l'hiver?
En janvier à Montréal au Canada, il fait en moyenne moins 10 degrés. Voilà. Mais la température peut descendre jusqu'à moins 35 par moment. 2 millions d'habitants vivent dans l'agglomération et pour s'adapter, il faut jouer sur plusieurs registres. Les déplacements, la vie souterraine et le chauffage.
Qu'est-ce que vous appelez la vie souterraine?
Alors, pour éviter de mettre le nez dehors, les habitants de Montréal se déplacent sous terre dans ce qu'on appelle le réseau piétonnier souterrain de Montréal. 33 km de tunnels pour aller d'un point à un autre sans sortir. Des immeubles de bureaux, des immeubles résidentiels, des centres commerciaux, des universités, des hôtels sont reliés par le réseau et à l'intérieur même de cette ville souterraine se trouvent des boutiques et des restaurants.
Et il date de quand, ce fameux réseau?
De 1962, c'est le plus grand complexe souterrain du monde. Il y a 160 points d'entrée différents, 7 stations de métro, 2 gares pour trains de banlieue, 500 000 personnes y passent chaque jour.
Et en surface alors, comment est-ce que ça se passe?
Alors déjà, il faut déneiger en surface jour et nuit, car il tombe en cumulé 2 mètres de neige par hiver à Montréal. Et quand la couche est fine, on va épandre du sel, des abrasifs. Quand la couche est épaisse, il faut des déneigeuses, près de 400 sur les routes et les trottoirs. La neige est ensuite chargée sur des camions pour l'évacuation. Il faut savoir que chaque hiver, le déneigement représente 300 000 voyages de camions.
Et pour les voitures, comment on fait?
Le carburant est adapté pour tenir le froid, le liquide du lave-vitre aussi, ça c'est important.
C'est important.
Et oui, et puis il faut souvent un chauffe-moteur pour que les véhicules démarrent sans galère. C'est un appareil électrique en fait qui va chauffer le moteur 2 à 3 heures avant le démarrage matinal. Il est activé par une minuterie.
Et pour ce qui est des déplacements maritimes, aériens?
À Montréal, le fleuve Saint-Laurent est gelé de la fin décembre à la fin mars, donc ça fait 3 mois, et il y a des brise-glaces. Quant à l'aéroport Montréal-Trudeau, il est doté de 8 gros chasse-neige et de 5 souffleries qui dégagent 5000 tonnes de neige à l'heure.
Un gros équipement, j'imagine que c'est pareil pour l'électricité.
En période de grand froid, la demande est très forte, ça va pas vous étonner. Alors les habitants doivent faire preuve de civisme. Entre 6 et 9 heures du matin et entre 16 et 20 heures, il est demandé de réduire de 1 à 2 degrés le chauffage dans toutes les pièces, de reporter l'utilisation des appareils électroménagers et de limiter l'utilisation de l'eau chaude.
Sujet numéro 3. Vous avez 1 minute 30 secondes pour lire les consignes. Sujet numéro 3, document sonore, première écoute.
Et on le disait tout à l'heure, vous serez partie prenante du congrès des biologistes suisses. Ça s'appelle Biology 16, il se tient demain à l'université de Lausanne. Et dans ce cadre, une manifestation originale est proposée au grand public demain entre 19h et 21h, un speed dating. Un speed dating ?
Aujourd'hui, nous allons vous préparer pour réussir votre speed dating. La première des choses à savoir, messieurs et mesdames cette fois-ci, c'est que le look est très important. Soyez clean de la tête aux pieds, pas trop de gel dans les cheveux, une peau qui ne brille pas trop, les dents propres, sentez le frais et soyez souriant.
Voilà, des conseils utiles pour assurer lors d'un speed dating. Bonjour Marie Voilmo.
Bonjour.
Vous avez pris des notes là?
Oui, c'est bon.
Vous avez les dents propres, je le confirme. Ouais. Ouais, vous serez équipé. Vous êtes doctorante au département écologie et évolution de l'université de Lausanne. Donc je crois que vous vous connaissez bien avec Olivier Glézeau. On vous accueille quelques instants pour que vous nous parliez de votre prochain speed dating à vous. Il a lieu donc demain soir à l'Uni de Lausanne. Mais évidemment, ça n'a rien d'un speed dating classique.
Non, bah, ce qui est commun, c'est le format. C'est-à-dire qu'on aura des tables avec des scientifiques, puis il y aura des petits groupes de personnes qui auront 10 minutes avec chaque scientifique pour pouvoir discuter, interagir de sciences, de recherches, etc. Donc c'est le format qui est comme ça commun, mais il n'y a pas de...
C'est pas un plan drague, quoi. N'allez pas demain à l'université pour trouver l'homme ou la femme de votre
vie. Oui, c'est vrai. Si on peut trouver l'âme sœur.
Et du coup, ce sera l'occasion pour des personnes comme vous, des doctorants, de parler de vos recherches, c'est ça?
Oui, exactement. Bon, après, c'est surtout un espace d'échange assez libre, en fait. Donc, il n'y a pas de thème tout fait. C'est les gens qui viennent avec leurs questions, leurs envies, leurs intérêts. Et ensuite, nous, on est là pour interagir. Donc, ils peuvent effectivement nous demander ce qu'on fait en recherche, mais ça peut aussi être des questions plus générales en biologie, sur l'évolution, etc. C'est très libre. C'est juste un espace d'échange entre le grand public et les scientifiques.
Alors, je vous pose ma première question. Bonjour, oui. Marie, moi c'est Stéphane. Vous faites une thèse en ce moment, c'est quoi votre sujet?
Oui, alors, moi je travaille sur la reproduction chez les plantes.
Oui.
Et puis, j'étudie en fait une plante qui est intéressante parce qu'elle a différents modes de fécondation. Certaines plantes chez cette espèce peuvent s'auto-féconder et d'autres non. Et donc, j'étudie pourquoi il y a ces deux stratégies, c'est quoi les causes, les conséquences pour les plantes, etc.
Et alors, du coup, le fait d'expliquer vos recherches à des non-spécialistes, ça vous est utile, vous, pour dans le cours de vos recherches aussi?
Alors, pas forcément pour notre recherche, mais je trouve que c'est un exercice très intéressant pour nous parce que on est souvent amené à présenter à des scientifiques ce qu'on fait, donc c'est très pointu. Par contre, là, arriver à rendre accessible à n'importe qui un domaine spécialisé, c'est un autre exercice et qui pour nous est très intéressant. On voit aussi à quel point on est au clair avec ce qu'on fait. Il faut arriver à le rendre accessible à tout le monde, de version simple. Donc c'est très intéressant pour nous aussi.
Être au clair quand on vous dit mais à quoi ça sert?
Oui, de donc question récurrente, pas toujours facile de se justifier, mais bon, ça fait partie de ça aussi. Et justement aussi montrer que la science est la curiosité, la connaissance, il n'y a pas toujours un impact direct et concret. Et ça, c'est important aussi de le mettre en avant.
Et c'est qui vient ce genre de speed dating? C'est des amateurs très éclairés ou vous avez vraiment des gens qui ont envie de découvrir la biologie en l'occurrence?
Alors ça, c'est assez rigolo parce que bah, j'ai participé l'année dernière déjà au même événement dans une autre conférence. Et on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, parce que c'était la première édition. Et il y a des gens de tout horizon, de tous les âges, des retraités, de tout. Et c'était super parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'intérêt pour la biologie, mais pas forcément dans le domaine. Donc ça fait partie de la richesse de l'événement, je pense.
Et parfois, est-ce que la conversation part sur des sujets de débat, justement, les OGM, la disparition des abeilles, le moustique-tigre?
Eh bien, ça pourrait, ce serait d'ailleurs intéressant, mais... La dernière fois, en tout cas, ça s'est pas tellement passé comme ça. Les gens étaient plutôt intéressés à savoir qu'est-ce qu'on faisait pour nos thèses, c'était quoi nos domaines de recherche, etc. Mais ça pourrait tout à fait, c'est
vous
très très ouvert, oui. Et puis, on attend même ça, à la limite, j'ai envie de dire, donc pourquoi pas.
Sujet numéro 3, document sonore, deuxième écoute.
Et on lisait tout à l'heure, vous serez partie prenante du congrès des biologistes suisses. Ça s'appelle Biology 16, il se tient demain à l'université de Lausanne. Et dans ce cadre, une manifestation originale est proposée au grand public demain entre 19h et 21h, un speed dating. Un speed dating?
Aujourd'hui, nous allons vous préparer pour réussir votre speed dating. La première des choses à savoir, messieurs et mesdames cette fois-ci, c'est que le look est très important. Soyez clean de la tête aux pieds, pas trop de gel dans les cheveux, une peau qui ne brille pas trop, les dents propres, sentez le frais et soyez souriant.
Voilà des conseils utiles pour assurer lors d'un speed dating. Bonjour Marie Voilemot.
Bonjour.
Vous avez pris des notes là?
Bon, oui, c'est bon.
Vous avez les dents propres, je le confirme. Ouais. Ouais, vous serez équipée. Vous êtes doctorante au département écologie et évolution de l'université de Lausanne. Donc je crois que vous vous connaissez bien avec Olivier Glaiseau. On vous accueille quelques instants pour que vous nous parliez de votre prochain speed dating à vous. Il a lieu donc demain soir à l'Uni de Lausanne. Mais évidemment, ça n'a rien d'un speed dating classique.
Hein. Non, ce qui est commun, c'est le format. C'est-à-dire qu'on aura des tables avec des scientifiques. Puis il y aura des petits groupes de personnes qui auront 10 minutes avec chaque scientifique pour pouvoir discuter, interagir de sciences, de recherches, etc. Donc c'est le format qui est comme ça commun, mais il n'y a pas de...
C'est pas un plan drague, quoi. N'allez pas demain à l'université pour trouver l'homme ou la femme de votre
vie. Ah, mais pourquoi ? On sait jamais, mais j'ai trouvé l'âme sœur.
Et du coup, ce sera l'occasion pour des personnes comme vous, des doctorants, de parler de vos recherches, c'est ça ?
Oui, exactement. Bon, après, c'est surtout un espace d'échange assez libre, en fait. Donc, il n'y a pas de thème tout fait. C'est les gens qui viennent avec leurs questions, leurs envies, leurs intérêts. Et ensuite, nous, on est là pour interagir. Donc, ils peuvent effectivement nous demander ce qu'on fait en recherche. Mais ça peut aussi être des questions plus générales en biologie, sur l'évolution, etc. C'est très libre. C'est juste un espace d'échange entre le grand public et les scientifiques.
Alors, je vous pose ma première question. Bonjour Marie, moi c'est Stéphane. Vous faites une thèse en ce moment, c'est quoi votre sujet?
Oui, alors moi je travaille sur la reproduction chez les plantes.
Oui.
Et puis j'étudie en fait une plante qui est intéressante parce qu'elle a différents modes de fécondation. Certaines plantes chez cette espèce peuvent s'auto-féconder et d'autres non. Et donc j'étudie pourquoi il y a ces deux stratégies, c'est quoi les causes, les conséquences pour les plantes, etc.
Et alors, du coup, le fait d'expliquer vos recherches à des non-spécialistes, ça vous est utile, vous, pour dans le cours de vos recherches aussi ?
Alors, pas forcément pour notre recherche, mais je trouve que c'est un exercice très intéressant pour nous parce que on est souvent amené à présenter à des scientifiques ce qu'on fait, et donc c'est très pointu. Par contre, là, arriver à rendre accessible à n'importe qui un domaine spécialisé, c'est un autre exercice et qui pour nous est très intéressant. On voit aussi à quel point on est au clair avec ce qu'on fait. Il faut arriver à le rendre accessible à tout le monde, de version simple. Donc c'est très intéressant pour nous aussi.
Être au clair quand on vous dit mais à quoi ça sert ?
Oui, de donc passer vos questions récurrentes, pas toujours facile de se justifier, mais bon, ça fait partie de ça aussi. Et justement aussi montrer que la science est la curiosité, la connaissance, il n'y a pas toujours un impact direct et concret. Et ça, c'est important aussi de le mettre en avant.
Et c'est qui vient ce genre de speed dating ? C'est des amateurs très éclairés ou vous avez vraiment des gens qui ont envie de découvrir la biologie en l'occurrence ?
Alors ça, c'est assez rigolo parce que j'ai participé l'année dernière déjà au même événement dans une autre conférence. Et on ne savait pas du tout à quoi s'attendre, parce que c'était la première édition. Et il y a des gens de tout horizon, de tous les âges, des retraités, de tout. Et c'était super parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'intérêt pour la biologie, mais pas forcément dans le domaine. Donc ça fait partie de la richesse de l'événement, je pense.
Et parfois, est-ce que la conversation part sur des sujets de débat, justement, les OGM, la disparition des abeilles, le moustique-tigre ?
Eh bien, ça pourrait, ce serait d'ailleurs intéressant, mais... La dernière fois, en tout cas, ça s'est pas tellement passé comme ça. Les gens étaient plutôt intéressés à savoir qu'est-ce qu'on faisait pour nos thèses, c'était quoi nos domaines de recherche, etc. Mais ça pourrait tout à fait, c'est très, très ouvert, oui. Et puis, on attend même ça, à la limite, j'ai envie de dire, donc pourquoi pas.
Fin de l'examen de compréhension de l'oral.